Moi, c'est André de Mbujima, Okata Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, Okatanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix, qui vous accorde la parole. Dans un message rendu public la semaine dernière, les évêques catholiques dénoncent l'enrichissement illicite des animateurs du nouveau régime et la persistance de la corruption. Certains observateurs estiment que cette affaire relance les débats sur l'application de l'article 99 de la Constitution qui impose aux présidents et aux membres du gouvernement, avant leur entrée en fonction, une déclaration de leurs biens et patrimoine. Alors qu'en pensez-vous et comment commentez-vous ces messages? Dans cet échange citoyen, nous vous invitons à placer un mot et analyser cette problématique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Monsieur Kazembe, vous êtes avec nous en ligne. Monsieur Kazembe, vous êtes avec nous en ligne et nous vous présentons comme président national de CONACAT, entendez par là, Conscience Nationale Congolaise pour la Construction. Alors, nous vous recevons à ce titre, vous êtes membre du FCC, vous avez suivi l'actualité avec la sortie musclée de la CENCO, avec cette également, notamment avec cette déclaration sur l'enrichissement illicite. Alors, comment commentez-vous cette actualité?
Merci beaucoup, M. JR, pour m'avoir accordé la parole. Je commence d'abord par corriger. CONACAT signifie Conscience Nationale Congolaise pour l'action et le travail. Mmh. Donc, nous avons également suivi le message de la CENCO. Et nous ne pouvons pas immédiatement condamner la CENCO. La CENCO, c'est une couche. Représente une couche de la population, notamment l'Église catholique, les croyants, qui occupent au moins 70% de la population congolaise. C'est un cri de cœur que la CENCO a lancé, parce que après cette passation pacifique du pouvoir, les espoirs étaient permis pour que nous puissions lutter contre la corruption, contre la fraude, la mésgestion et les détournements. Mais une année après cette passation du pouvoir, nous voyons que les choses n'ont pas tellement changé et la CENCO a le droit de se plaindre. Mais nous ne pouvons pas accuser la coalition FCC-CACH. Mais nous pouvons aussi, c'est un cri qui est lancé aussi en direction de cette coalition, et cette coalition devait être suffisamment structurée pour se mettre autour d'une table et réfléchir où est-ce que nous voulons amener le pays, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer. On ne peut pas accuser uniquement l'État, parce que selon notre constitution, il n'a pas le plein pouvoir. À côté de lui, il y a un chef du gouvernement qui est du FCC, et le gouvernement aussi devait se poser des questions pour savoir est-ce que nous avons réussi à lutter contre la corruption, est-ce que nous avons réussi à lutter contre les détournements. Mais si les mots qu'on accuse la coalition viennent de part et d'autre, ça signifie qu'on peut croire qu'il y a une complicité et dans la mégestion. Et c'est ce que nous devons combattre, donc nous devons combattre cela pour essayer de donner l'espoir à notre population.
Alors, quand la CENCO insiste pour dire que jusque-là, comme vous l'avez d'ailleurs dit, une année après, rien n'a changé, on remarque pratiquement la même chose, est-ce qu'on peut attribuer, disons, cette responsabilité au FCC et qui a pu transmettre l'ADN ou encore qui a pu contaminer le cash dans cette corruption, dès lors qu'on sait, par le passé, 18 ans durant, du règne du FCC, dans l'ancien régime, on a beaucoup parlé de cette corruption persistante.
Non, moi je pense que le mal congolais est très profond. non seulement on a parlé de la corruption, de la fraude pendant le règne passé, mais on a parlé de la corruption, je pense, depuis l'aube de l'indépendance. On a parlé de la corruption depuis l'époque de Mobutu, 32 ans durant. Donc, nous, en tant que Congolais, nous devons nous remettre en question. Est-ce que cette corruption-là, de 32 ans, est-ce que nous en sommes épargnés? Et je pense, honnêtement parlant, le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, a eu à se plaindre. Il a eu à le dire haut et fort et sans embâche pour dire que si je pouvais avoir 15 personnes, je pouvais transformer ce Congo. Il a même dit que nous avons, c'est vrai, réalisé beaucoup de choses, mais nous n'avons pas réussi à transformer l'homme congolais. Et nous voyons que l'homme congolais, il n'est pas seulement dans le CAS, il n'est pas seulement dans le CV. Je peux dire qu'aucune couche n'est épargnée, même au niveau de la CENCO. Est-ce que nous pouvons dire que l'Église catholique est bien gérée? Quand on regarde aussi ce qui se passe à côté. Donc c'est l'homme congolais d'une manière générale. Et nous devons nous-mêmes, je pense, le formater l'homme congolais. Et pour cela, c'est la mission première du chef de l'État. Le président de la République ne doit faire aucune concession en ce qui concerne la corruption. Et quand on regarde autour de lui, c'est là qu'on trouve des gens corrompus, c'est là qu'on voit des nouveaux riches qui commencent à émerger. Alors, en ce cas-là, nous allons dire que le chef de l'État a échoué dans sa mission. Sa mission première, c'est de former l'homme. Sa mission première, c'est de formater le Congolais qu'il veut vraiment réussir. Donc, il doit placer la barre très haut en ce qui concerne l'honnêteté, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, en ce qui concerne la lutte contre la méchanceté. Jusque-là, moi, je pense que le gouvernement a du plomb dans l'aile et on ne sait pas décoller. On n'a pas encore vu ce décollage.
Alors, parce qu'on n'a pas encore vu ce décollage, il y a certains observateurs qui estiment que les problèmes se posent plutôt dans l'application de l'article 99 de la Constitution qui impose au président et aux membres du gouvernement, ainsi que d'autres mandataires, avant l'entrée en fonction, de faire des déclarations de leurs biens et patrimoine. Nous avons vu, en tout cas, il y a un silence radio jusqu'à maintenant pour ces nouveaux gouvernements. On n'a pas vu les membres de ce gouvernement aller auprès de l'autorité judiciaire pour déclarer leurs biens et leurs patrimoines. C'est ce qui laisse place à cette corruption, à cet enrichissement illicite. Est-ce que vous pensez à cela aussi?
Je pense qu'ils l'ont déjà fait. Parce que s'ils ne l'ont pas fait, c'est une faute grave et c'est une violation de la Constitution. Le procureur de la République près la Cour constitutionnelle peut invalider ce gouvernement si le gouvernement ne l'a pas fait. Mais je pense que cela ne change rien. Qu'on déclare les biens, qu'on ne déclare pas, parce que quand vous les déclarez, on met sous enveloppe et puis ça reste là-bas dans l'enveloppe. Personne n'ouvrira cette enveloppe. Personne ne va vous demander où est-ce que vous avez eu ceci, où est-ce que vous avez eu cela. Et puis les gens sont devenus très malins. Il peut acquérir des biens, mettre au nom de sa femme, au nom de sa fille, au nom de son cousin, de son neveu. Mais ce qu'il y a, le chef de l'État doit être regardant, doit avoir l'œil sur toute chose. Quand nous regardons ce qui se passe, pour acheter, on dépense, c'est pas 600 millions de dollars pour acheter les climatiseurs. On ne dépensait pas 90 millions de dollars pour acheter des chaises. Je crois que tout ça, le chef de l'État doit être regardant, à mon avis. Et pour avoir géré la province du Haut-Katanga, moi je pense que ce Congo est gouvernable. Et en un rien de temps, en une année, c'est déjà beaucoup pour impacter le changement dans ce pays, pour poser les jalons de la bonne gouvernance. Et jusque-là, on ne voit pas les jalons de la bonne gouvernance. On devait d'abord commencer, le FCC Cash devait d'abord se faire violence, éviter un gouvernement éléphantesque qui ne fait rien, des saucissonnés, des ministères pour rien. Et vous voyez que ça a pris du temps, ne fût-ce que pour confectionner l'ordonnance portant répartition des compétences des attributions. Ça a pris au point une année à cause du saucissonnement du gouvernement. On devait se faire violence, connaissant la pauvreté de notre pays, mais ne faire qu'un gouvernement de 20 personnes.
Tout à fait.
Et que ces gens-là se mettent réellement au travail. Et le chef de l'État, il n'est pas étranger, il est congolais. Il sait là où entre l'argent, là où on vole, là où on triche. Il pouvait même faire comme l'avait fait, je crois, le président tanzanien. Il a mis dehors tout le monde, des EDA, tout ça, partout entre l'argent, ou partout il y a la corruption,
On essaie de laver le cerveau, on essaie de nettoyer et pour mettre des gens nouveaux avec des directives nouvelles.
Mais alors, dans la configuration politique actuelle, et le président n'a pas de marge de manœuvre, vous l'avez dit en début, et beaucoup des membres de la société civile continuent à réclamer la rupture dans cette coalition. Donc c'est ça qui fait que tout se partage, les ministères ainsi que les entreprises. Alors donc c'est impossible d'imposer ou de chasser et d'autres personnes, raison pour laquelle lui-même il avait dit il va pas finir dans le passé. Nous vous gardons en ligne, monsieur Kazembe, ancien gouverneur du Katanga, du Haut Katanga, et président de la CONACAT, avant d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints pour débattre et échanger de manière citoyenne ensemble avec nous.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Suivez votre émission chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter de lundi à jeudi à 21h et samedi à 11h05.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Ignace Ndala, vous êtes à Kolwezi. Professeur, bonjour.
Bonjour, merci pour la parole. Je voudrais d'emblée dire que le sujet est très intéressant et pertinent. Il faut reconnaître que la liberté d'expression est garantie dans notre Constitution. Ensuite, sociologiquement parlant, il faut aussi dire que la CNCO est considérée comme une structure ou un groupe de pression, mais un groupe de pression partiel, parce qu'au départ, elle a un aspect, une mission religieuse, et après, elle a un regard sur la société en tant que pasteur. Disons que quand on parle de l'enrichissement sans cause, il faut reconnaître que ce fait est un délit de droit commun. Ici, quand nous parlons en termes de droit, il y a le principe qui veut que celui qui allègue les faits puisse en apporter les preuves. C'est-à-dire que s'il y a des situations ou des cas d'enrichissement sans cause, notre appareil judiciaire est bien ramifié pour se saisir du dossier et savoir le traiter avec profondeur, parce que nous avons des magistrats et ceux qui estiment vraiment qu'il y a des preuves, ils n'ont qu'à aller traduire en justice qui sont considérés comme...
Oui, Ignace Ndala, quand nous lisons la déclaration des évêques, des prélats catholiques, en fait, toutes ces déclarations surviennent au moment où il y a, selon, en tout cas, certaines phrases dans ces déclarations, il y a des gros soupçons de détournement de sommes débloquées pour les travaux des 100 jours, par exemple, du président Félix Tshisekedi. Plusieurs responsables des entreprises exécutant notamment la construction des sauts de moutons ont fait l'objet des interpellations et même des arrestations. Alors, les preuves, je crois que pour certaines personnes, c'est déjà suffisant.
Oui, merci pour la question. Elle est aussi très pertinente, celle-là. Disons que les dossiers que vous évoquiez tout à l'heure est en cours. Il y a des gens qui sont détenus à la prison de Makala. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de vivre la coalition, une nouvelle expérience. Et je voudrais ici ouvrir une parenthèse, c'est qu'il y a d'un côté les pratiques individuelles, les fautes individuelles qu'on ne devrait pas mettre au compte des familles politiques. Mais du moins, il faut reconnaître qu'en tant que groupe de pression, la CNCO a le mérite de jouer ce rôle d'alerte et d'éveiller l'attention. Donc, c'est une interpellation quant à la moralisation de l'action politique, la prise de conscience des acteurs politiques par rapport à ce qui est attendu d'eux. Vous savez, quand on entre en politique, on doit se comporter comme serviteur. Et quand on dit serviteur, on doit se dire qu'on a le devoir de redevabilité. Disons qu'il y a des tares dans notre société, la maladie, la corruption, l'esprit d'influence, tout cela, les phénomènes parapluie, tout cela. Disons que ce sont des tares et la CNCO a évoqué cet aspect parce que aujourd'hui, la situation économico-sociale de la société de notre pays est à un niveau très, très, très raté, mais des efforts sont fournis dans le sens de le relever. Et c'est à ce niveau qu'il faut considérer que la CINCO a le souci de moraliser, le souci d'éveiller la conscience et d'en appeler au sens de responsabilité des dirigeants pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse faire le travail pour répondre aux aspirations et aux attentes de la population. Le problème est réel, la situation n'est pas du tout bonne, mais des efforts sont fournis dans ce sens. Maintenant, je reviens à l'aspect de l'article
99.
Disons aussi que la loi reste une loi, mais on veut bien, comme l'a dit le gouverneur honoraire que j'ai suivi tout à l'heure, on veut bien l'appliquer. On doit, disons-le clairement, on doit appliquer cet article qui dit que les officiels doivent déclarer leur patrimoine avant d'entrer en fonction. Mais disons aussi clairement les choses. Est-ce que c'est en appliquant cet article, est-ce que c'est en déclarant que cet esprit de détournement ou cet esprit de corruption sera élagué? Il faut aussi revenir en amont sur les systèmes éducatifs. Est-ce qu'il insiste sur la morale des ceux qui sont formés, que ce soit à l'école primaire, à l'université et partout ailleurs? Est-ce que notre système social encourage-t-il ceux-là qui pratiquent la morale, ceux-là qui font mieux leur travail? C'est autant de défis qui nous attendent. Somme toute, reconnaissons que la CENI et la CINCO à jouer
correctement son rôle. Merci.
Là,
merci.
Chacun à quel niveau qu'il
est. Merci beaucoup. Donc, c'est un cri de cœur, comme l'a dit d'ailleurs notre invité. Merci, Ignace Ndala. On va prendre Omar qui est à Kinshasa. Omar, bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution?
Merci, JR, du verbe que vous m'adjugez. C'est un sujet intéressant. Mais je crois que certaines personnes des petites vertus vont s'étaler à dire que l'Église n'a pas à se gérer de la politique. Comme l'a dit mon prédécesseur, l'Église n'a pas seulement le rôle de préparer les gens à aller au ciel, elle a aussi le rôle d'impacter les gens à bien gérer la chose sociale. Voilà pourquoi Martin Luther, le prêtre, a dit « Toute religion qui ne se préoccupe pas des problèmes sociaux de sa nation est une religion desséchée. » Je ne suis pas catholique dans ce sens, je salue ce courage de l'Église catholique. Il y a récemment un pasteur de l'église de Revers a voulu le faire, c'est qu'on encourage parce que l'église doit aussi dénoncer les faits malheureux de la société, mais seulement il les faisait un peu de manière brutale et bestiale, voilà pourquoi je n'encourage pas. Mais j'apprécie cet exercice citoyen qui consiste pour l'église, parce que l'église vient du grec église qui veut dire les gens qui sont dehors, qui proposent des solutions pour les gens qui sont à la cité. C'est important. Mais ces commentaires ou encore ces rapports de la CINCO, très cher JR, est fondé sur tous les plans, sur le plan factuel. On a constaté nous-mêmes, je prends les cas de Kinshasa, des ministres qui n'avaient presque rien. Je connais ainsi vivant la parcelle familiale aujourd'hui qui a des villas. Ce sont des faits qui sont suivants et ça blesse la morale. Vous l'avez dit vous-même, l'article 9, c'est une obligation. Mais l'important, ce n'est pas qu'on déclare le bien. L'important, c'est de savoir d'où est-ce qu'on a acquis tout ce qu'on a actuellement. Donc, sur le plan factuel, il y a un constat qui a été fait sur lequel la CINCO a basé son rapport. Et ces faits odieux, il faut les dénoncer parce que ça torpille le tissu économique congolais. Nous ne sommes pas contre que les gens puissent prospérer, ce qui est d'ailleurs le souhait de tous, mais on doit prospérer de manière légale et civique. Sur le plan politique, ces rapports viennent quand même relever une chose. On a été très longtemps ici à déclarer l'alternance. Ces faits qui démontrent l'enrichissement illicite piétinent les combats qu'on a menés pendant 32 ans. On s'est tous battus pour qu'il y ait un changement. On s'est battus pour des valeurs. On a lutté contre les antivaleurs telles que l'enrichissement illicite, les partages politiques des pouvoirs. Mais une fois aux affaires, on fait la même chose. Troisièmement, sur le plan économique, ça crée une déconfiture économique parce que l'argent est géré de manière générale, de manière juste. Mais lorsqu'une seule catégorie en bénéficie, le tissu économique est torpillé. Voilà pourquoi je disais hier, et là même dit mon prédécesseur, la déclaration est légale, c'est dit, mais ce n'est pas le vecteur pour lutter. Moi, je pense que ces rapports de la CINCO, premièrement, a comme conséquence la conscientisation de l'homme politique. Lorsqu'on accède aux affaires politiques, on est d'abord là pour l'intérêt général et non pour ses propres intérêts. J'en appelle à tous les acteurs politiques, personnes morales, personnes physiques, d'avoir une conscience. Nous qui aspirons à être un jour politiques, ils ne sont plus des modèles pour nous. Deuxièmement, ça doit interpeller les autorités de contrôle. C'est là que je fais vraiment appeler mon intervention. Il y a dans ces pays plusieurs organes de contrôle. Nous avons d'abord le Parlement. Le Parlement qui est une courroie de transmission entre les gouvernements et les peuples. Lorsque le parlementaire constate une hausse vertigineuse des richesses qu'une personne n'avait pas avant, on doit interpeller ses ministres ou ses animateurs pour lui dire d'où ce que tu as, tout ce que tu as aujourd'hui. il y a la Cour des comptes qui a été créée spécialement pour gérer les comptes de l'État. Lorsque les gens sont en train de s'enrichir illicitement, ce sont des comptes qui sont bougés. Est-ce qu'on fait un contrôle des DB ou des Quitus pour interroger ces gens? Il y a l'inspection des finances qui a pour rôle d'inspecter tout ce qui est en train de bouger comme finance au pays. Est-ce qu'ils inquiètent ces gens pour les interpeller même au bureau pour demander qu'est-ce que vous avez? Il y a les pouvoirs judiciaires. Chier, vous voyagez de par le monde. En Europe, même si quelqu'un est en train de prendre la boisson et ramper la table, la police l'interpelle. On vous demande d'où vous avez cet argent. On a arrêté un de nos compatriotes congolais qui jetait l'argent lors d'un concert des musiciens congolais. Il a été interpellé pour qu'il justifie d'où vient cet argent. En Europe, même lorsque on remarque chez vous de nouvelles voitures, de nouveaux habits, on peut vous interpeller parce que c'est ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune. Est-ce que le magistrat qui constate ces faits, qu'est-ce qu'il fait? Donc ces rapports de la CENCO conscientisent mais aussi interpellent ceux qui doivent contrôler. Les faits sont probants et devant les faits on s'incline. Quelqu'un qui dormait à la parcelle familiale, tout d'un coup il a deux villas, il a traité d'autres maîtresses. Vous devez l'interpeller, qu'il vous dise là combien en banque. Et s'il y a des faits infractionnels, comme l'a dit mon prédécesseur, qu'on l'arrête. Qu'est-ce que fait le pouvoir judiciaire? Donc ce sont des choses que nous déplorons.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir accepté de participer dans cette émission. Omari, vous êtes à Goma, Omari Abdallah, vous êtes à Goma, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Quelle est votre contribution, Omari?
Merci beaucoup, Gilles, pour me passer la parole. Je salue aussi l'équipe de Radio Capi. La déclaration de la CENCO, c'est une déclaration en fait qui traduit une inquiétude, laquelle inquiétude est partagée par l'ensemble des Congolais. En général, en particulier la ville de Goma, aussi par la province de Okimon, d'où je vous appelle. Cette inquiétude qui est grandissante, monsieur Juel, elle ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive parce que la population de la RDC, ou soit du Congo en général, qui espérait à un changement, à l'avènement du président Félix au pouvoir, continue à être déçue. Et cela se manifeste dans tous les secteurs. Vous savez que la corruption comme un mal qui détruit en fait la société, nous sommes en train de vivre aujourd'hui la période des avant, en tout cas, si vous permettez de citer le nom, avant Kabila, pendant Kabila est égal après Kabila. Parce que nous avons décru la corruption, la fraude, l'enrichissement sans cause. C'est des situations que le genre de l'IDPS décrier haut et fort. Et les gens sont morts, comme elle l'a dit bien l'un de mes prédécesseurs là-bas, les gens sont morts pour chercher la démocratie, la bonne gouvernance. J'ai cité notamment le Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Tchebea, la liste
Armatungolo.
Pour chercher un état de droit où les gens vont cesser de s'enrichir de façon illicite comme ça, et il y reste de façon impunie. Cette inquiétude est là, M. Pirot, moi-même qui vous parle, M. J.R. Fleuchdi, moi-même qui vous parle ici, je suis personnellement déçu parce que je m'imaginais que le jour où l'IDPS sera au pouvoir, eh bien, c'est l'occasion ou jamais pour le peuple congolais de vivre le bonheur de ce pays. Malheureusement, une fois de plus, les mêmes personnes sur qui on espérait beaucoup.
Voilà, je suis en train de lire un commentaire. Je suis en train de lire. Omari, je suis. Allez-y.
Je me rappelle de la déclaration de quelqu'un qui disait, aussitôt que le président Félix a pris le pouvoir, que FCC et Cash, c'est un véritable conglomérat de milliardaires et de millionnaires de demain. J'aborde l'aspect lié
Voilà, vous n'avez plus assez de temps. Oui. Voilà, donc je crois que c'est comme les prédécesseurs l'ont dit, et je suis en train de découvrir en même temps un commentaire d'un auditeur qui dit, vous venez d'ailleurs de le dire, tout le monde attendait par un coup de bâton magique que les choses changent, mais lui il dit plutôt que les téléspectateurs, il est en tout cas en dehors de l'ère de jeu, il s'estime être un meilleur entraîneur que l'entraîneur, le coach de l'équipe lui-même. Mais quand on les met sur le terrain, c'est autre chose, c'est comme en politique, la réelle politique en est une autre, et c'est que nous observons de l'extérieur, c'est aussi autre chose. Merci beaucoup Omari d'avoir appelé des Goma 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci à vous tous qui nous suivez en ce moment depuis Lubumbashi, là où d'ailleurs on nous signale qu'il y a une interruption, on nous capte pas, donc je crois que les techniciens vont vérifier cette situation. Nous poursuivons cette émission avec vous, Monsieur Kazembe, ancien gouverneur du Haut-Katanga, et vous êtes aujourd'hui président de la CONACAT, membre du FCC. Vous avez suivi les auditeurs, Ignace Ndala qui a estimé que le problème il est réel, en tout cas le problème dénoncé par la SENCO. Omar qui insiste par exemple sur le rôle de l'Église qui n'a pas seulement le rôle de préparer les gens à aller au ciel mais aussi d'observer la société et de donner des grandes orientations et Omar a insisté pour dire toutes les dénonciations sont fondées sur tous les plans. Omar Abdallah lui dit la déclaration de la SENCO traduit l'inquiétude partagée par l'ensemble des Congolais. Alors que répondez-vous aux uns et aux autres ou comment analysez-vous les propos des uns et des autres? Monsieur Kazembe.
Merci beaucoup, merci M. Zier. Je pense que tous les Congolais réfléchissent de la même manière. On ne peut pas se voiler la face. Effectivement, quand le président Kabila a pris le pouvoir, Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il y a eu beaucoup d'attentes. Et nous voyons qu'il a quand même fourni un effort, tel que la réforme monétaire, la pacification du pays. Le président Joseph Kabila, quand il a succédé à Mzé, il y a eu aussi beaucoup d'attentes. Il a pacifié le pays, il a réunifié les différentes forces rebelles, il nous a donné une nouvelle constitution, nous sommes allés aux élections. Voilà, ça s'appelle le progrès. Et nous avons voulu aussi que le président Tshisekedi, en venant, puisse peut-être faire ce que le président Kabila n'a pas fait. Que nous puissions aussi sentir l'amélioration. C'est comme ça que le pays évolue. Et sur quel point nous l'attendions? Nous l'attendions sur la lutte contre la corruption, sur la bonne gouvernance, sur l'instauration de la démocratie. Et c'est sur ce point-là que nous l'attendons. Mais lorsque nous trouvons autour de lui, on parle de détournement de 15 millions, on parle de projets de sauts moutons qui n'aboutissent pas. Mm-hmm. Alors nous comptons qu'il marche. Nous voyons qu'il y a un mauvais départ. Et il est grand temps. Nous appelons vraiment le chef de l'État et nous lui témoignons son soutien, notre soutien. Nous disons que nous sommes avec lui, mais qu'il écoute nos attentes. Et il est temps qu'il puisse se ressaisir et qu'il puisse quand même ajouter, faire un plus. Là où le président Kabila a laissé, qu'il fasse un plus pour que le pays puisse avancer. En fait, il concerne la bonne gouvernance. Jusque-là, on ne sent pas. On ne sent pas. Et vous allez m'excuser. Moi, je pense que si nous continuons à cette allure, nous risquons de dire que le pays n'est pas gouverné. Pays n'est pas gouverné, c'est-à-dire... On ne sent pas le changement. Il faut, sur le plan agricole, quel est son projet? Il nous avait lu, à tel point que certains commencent à dire que c'était de s'appeler de bonnes intentions. Il nous avait lu des grands projets sur dans le secteur agricole, des grands projets dans le secteur minier, des grands projets dans la lutte contre la corruption, des grands projets dans la mobilisation des recettes. Mais nous pensons que nous sommes en train de chuter.
Voilà. Alors je peux pas me cacher. Je ne sais pas me cacher ces sentiments parce que je suis en train de découvrir. En même temps, les commentaires des auditeurs, Monsieur Kazembe, vous êtes un ancien gouverneur du Katanga et vous avez été reproché à ce temps-là aussi tentative de détournement d'une somme d'argent. Est-ce que bon, qu'est-ce que vous répondez à ces messieurs? Est-ce que c'était des accusations gratuites?
Non, on ne m'a jamais reproché de détournement de deniers publics. Si cela était le cas, je me serais retrouvé en prison parce que vous avez eu l'atelier qu'il y a eu, on a fait...
La Cour constitutionnelle qui vous avait réhabilité.
Voilà, on a fait des fausses accusations, la Cour constitutionnelle m'a réhabilité, on ne m'a jamais réhabilité, mais par contre, regardez ce que nous avons pu réaliser en si peu de temps. Et j'avais laissé, ce qu'on a cru que j'ai détourné, c'était 27 600 000 dollars que j'avais laissé dans les comptes. Et qui devait servir à construire un nouvel aéroport. Donc cet argent-là était porté disparu. Mais dans si peu de temps, regardez, nous avons construit le meilleur gouvernorat de la République et même de l'Afrique centrale en 8 mois. Donc, c'est pour vous dire que nous avons
créer des villages agricoles qui ont permis à la population d'avoir des revenus, de lutter contre la famine dans la ville de Louvain, dans le Haut-Katanga. Donc je ne peux pas me vanter, je ne peux pas dire ce qu'on a pu réaliser en si peu de temps. Et c'est pour cela que je confirme haut et fort que le Congo est gouvernable. Si nous avons des bons dirigeants qui travaillent pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt personnel. Évidemment, quand on recrute des gens qui sont bouchés, qui ne peuvent pas comprendre que en enrichissant le Congo, on s'enrichit soi-même. Lorsqu'on développe le Congo, nous-mêmes, on vit dans un environnement développé, dans un environnement évolué. Donc, on évolue, on s'enrichit ensemble au même moment. Donc, voilà, nous demandons au président de la République, Félix Tshisekedi. Moi, personnellement, je dis que je l'aime bien et je le soutiens en tant que mon président, mais je lui dis qu'il n'a pas encore commencé. Est-ce que quand on construit les sautes moutons, qui ont d'ailleurs échoué lamentablement, est-ce que tous les Congolais iront marcher sur les sautes moutons? Donc jusque-là, le seul projet que nous connaissons, c'est le saut mouton. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une réalisation, c'est une application d'un article de la Constitution. Mais ça boite encore, parce qu'il y a des enseignants qui sont impayés. Il y a des enseignants qui ne sont pas mécanisés, des NU. Donc, quel bilan réalisé? Quel est le bilan? Une année après, on devait quand même faire un bilan pour dire qu'est-ce qu'on a réalisé. Bien sûr, il n'est pas le seul dans le bateau. Il est accompagné du Premier ministre. Mais qu'on aurait ce gouvernement éléphantesque. Il nous sert à quoi? Il est seulement budgétivore.
Alors, M. Kazembe, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a un auditeur qui a parlé de la morale, c'est vrai, il y a certaines personnes, certains politiques qui peuvent aussi donner de des leçons ou la morale à d'autres, mais aujourd'hui, on a l'impression que le système là a envoûté pratiquement tous les politiques, ou tous les politiques, quand il accède au pouvoir, il est envoûté par la corruption, et qu'il va falloir aujourd'hui un désenvoûtement collectif pour que nous arrivions finalement au résultat, et donc on estime que ce désenvoûtement passera par la moralisation d'abord de la vie politique, la conscientisation de la population, disons dans son ensemble, si nous voulons réellement avoir les résultats.
Vous savez, on ne va pas recruter les gens, vous recrutez les gens, vous signez des ordonnances pour nommer le Premier ministre, l'ordonnance pour nommer les ministres, et puis maintenant, vous en faites une école de moralisation. Non, la grande moralisation, c'est l'application de la loi. Quand j'étais gouverneur du Haut-Katanga, on m'a dit on va construire un mur à Kasumbalesa pour lutter contre la fraude. Mais non, le grand mur pour lutter contre la fraude, c'est la loi. Le mur pour lutter contre la mauvaise gouvernance, c'est la loi, l'application stricte de la loi. Voilà les grands murs, voilà la moralisation. Le gouvernement n'est pas une église où on va commencer à prêcher l'évangile. Mais là, on applique les lois de la République. À ce moment-là, quand on applique les lois, tout le monde va s'aligner. Entre la Zambie et la Tanzanie, il n'y a pas un mur. Mais le seul mur qui existe, c'est la loi. Quand quelqu'un arrive là et dit que ici c'est la frontière, je ne peux pas traverser. Mm-hmm. Mais lorsque quelqu'un peut mettre la main dans la caisse de l'État et prendre l'argent, et après on se fasse, on dit non, prouvez que j'ai volé. Mais c'est ridicule. Et comment est-ce que le pays fait avancer? Et lorsque le gouvernement, nous devenons, comme on dit, des Ivoiriens, des gens qui ne voient rien. Quelqu'un est en train de voler, et bien on ne voit rien. On détourne l'argent, on surfacture et tout ça, et on ne voit rien, et on tergiverse pour punir. Ce Congo n'avancera pas dans ce sens-là. Et en fin de compte, lorsqu'on y mêle les amis que vous avez amenés dans votre gouvernement qui commencent à voler, les frères qui sont impliqués dans les vols, dans l'enrichissement sans cause, ça affaiblit le pouvoir. À ce moment-là, vous ne serez pas en mesure de sanctionner. Parce que si vous sanctionnez, quelqu'un va vous dire, mais et votre frère qui a fait ça? Et votre ami que vous avez amené de l'Europe?
Merci beaucoup, Monsieur Kazembe. Nous vous gardons encore en ligne. Et là, ça nous pousse d'ailleurs à rappeler la déclaration de l'ancien candidat à la présidentielle, Monsieur Ngoube Ngoube, qui a dit il y a pillage des minéraux, cuivre, cobalt, lithium, or, etc., etc., dans les grands Katanga. L'actuel, disons, il y a plusieurs sociétés parallèles et fantômes privés au détriment des peuples congolais. Et ces sociétés ont été créées et les membres qui travaillent sème la terreur aux exploitants miniers. Donc, c'est un dossier que le chef de l'État peut suivre de près et pour finalement faire entrer la population dans leur droit de pouvoir bénéficier aussi de ces minéraux. Maître Yves, vous êtes à Kinshasa et Maître Georges Kapiamba, vous êtes également dans la ville-province de Kinshasa. Nous vous accueillons. Maître Yves, bonjour.
Bonjour, Monsieur JR. Bonjour, la radio Capi.
Quelle est votre contribution, Maître Yves?
Bon, en tout cas, moi, je suis en train de dire que la SEMCO joue son rôle d'alerte, un rôle citoyen de contrôle de la gouvernance actuelle. je pense que nous devons nous rappeler que nous avons hérité un système que je peux qualifier de catastrophique parce que la gouvernance ancienne qui vient de se passer était une gouvernance qui était bâtie sur la corruption, le mensonge, la fraude, le détournement des biens publics, etc. Donc c'est une situation que la gouvernance actuelle a hérité. Donc, mais cela ne veut pas dire que nous devons continuer. En démocratie, nous avons des principes. Les principes, la transparence, la bonne gestion d'affaires, etc. Donc je pense que lorsque la SEMCO dénonce des faits liés à la corruption, c'est vraiment qu'elle en détient les preuves. Et si elle en détient les preuves, je pense que s'agissant du détournement de données publiques, s'agissant de la corruption, la cause est une cause commune, M. J.R. Donc, la SEMCO elle-même, en tant qu'organisation de la société civile, peut saisir le magistrat, parce que le magistrat n'est pas, d'ailleurs, par rapport au magistrat lui-même, le magistrat ne peut pas attendre seulement que les plaintes lui arrivent. Il a le pouvoir que la Constitution lui donne, que la loi lui donne. Même par le fait qu'il y a dénonciation, le magistrat peut saisir d'office des faits de corruption, mais d'autres faits infractionnels. Donc, je demande à notre juge de faire son travail. On vient de nommer des nouveaux magistrats qui constituent l'essentiel de ce que nous sommes en train d'appeler les conseillers de la magistrature. Ce sont eux qui tiennent maintenant le rêne de la magistrature. Je crois que ce genre de faits doivent faire l'objet de poursuites, des enquêtes, afin que nous puissions voir clair que la vérité soit rétablie. Donc, en démocratie, nous sommes nombreux, la société civile fait son travail, les sections de pouvoir jouent leur travail, la justice doit travailler. C'est moi, je suis en train de vouloir, en tout cas, que la justice puisse travailler. S'il y a eu vraiment l'enregistrement illicite de la part des membres du gouvernement, en tout cas, que les magistrats fassent le travail. C'est moi, je suis en train de demander. L'article 97 évoqué, mais je pense que cet article-là est inscrit dans la Constitution, dans l'idée, évidemment, de moraliser l'espace public. Et si elle est même assortie d'une sanction, M. Juer, parce qu'il est libéré que si, au-delà des 30, de 90 jours, la personne intéressée n'a pas fait la déclaration, cette personne est donc déclarée démissionnaire. Bon, il appartient maintenant au chef de l'État, il appartient à la Cour constitutionnelle de pouvoir s'appuyer sur ce genre de
décisions.
La personne intéressée, puisse être
Merci beaucoup, Maître Yves. Merci beaucoup, Maître Yves. On va prendre Maître Georges Kapiamba, qui veut réagir par rapport à ce que vient de dire Maître Yves. Georges Kapiamba, vous êtes avec nous en ligne?
Oui, bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
La justice qui ne fait pas son travail, et un auditeur dit, nous sommes dans un système de partage du pouvoir de manière équitable et équilibrée, c'est difficile que la justice puisse s'en mêler, parce que c'est la politique qui tient le droit en état.
Non, je crois que c'est un constat, mais qui est mauvais, dont la réalité choque. Pourquoi? Parce que le pouvoir, nous sommes dans un système constitutionnel qui consacre trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et donc, tous les trois sont égaux et aucun de ces trois ne doit penser être au-dessus des autres ou avoir l'ascendance sur les autres de manière à leur dicter une quelconque ligne à suivre. Chacun de ses pouvoirs doit agir de manière à s'assurer, à contrôler les comportements des autres pour éviter que les autres ne puissent pas tomber dans des comportements un peu autoritaires. Et donc, il est de notre obligation, nous tous, de pouvoir nous mobiliser pour réveiller nos magistrats qui somnolent, qui sont aujourd'hui tous dans une sorte de léthargie, qui pensent que l'indépendance doit leur être apportée sur un plateau en or ou qu'il faudrait que le pouvoir exécutif leur dise « Voilà, là-bas, il y a quelqu'un qui est accusé de détournement, de corruption, agissez, arrêtez X, libérez Y. » Non. Les magistrats ont accepté, de par leur serment, de travailler en âme et conscience pour servir le droit. Et ils n'ont comme guide que la loi, la Constitution et les lois de la République. Et lorsqu'ils sont appelés à poser leurs actes, ils doivent les poser en prenant soin pour que ces actes restent dans les limites de la Constitution, des lois de la République, et sans recevoir des injonctions ou des dictats de qui que ce soit. Et je crois que c'est ça le grand problème dans notre pays. Ce n'est pas parce que les magistrats sont nommés par ordonnance présidentielle qu'ils doivent penser devenir redevable à celui qui l'a nommé. Il y a ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude vis-à-vis de l'autorité qui nomme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter cette autorité, mais il faut respecter tout en sauvegardant ses propres pouvoirs. Et donc, la situation que nous connaissons, j'ai entendu les amis qui parlent de l'enrichissement illicite, et c'est vrai que la CENCO s'est alarmée contre l'enrichissement illicite de ce qu'elle a appelé de certains dirigeants qui sont appelés pourtant à protéger, assurer la redistribution des richesses nationales à tous les Congolais, parce que au terme de l'article 58 de la Constitution, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Mais cependant, dans un état de droit, nous disons, nous encourageons ceux qui ont reçu des dénonciations ou des informations de les mettre à la disposition de la justice. Quelqu'un a dit là-bas, on vient de nommer de nouveaux magistrats, mais mettons-les devant une sorte de preuve. Fournissons toutes les informations que nous avons.
Oui, mais la crainte, maître Georges, vous avez à votre niveau, au niveau de la CAGE, vous aviez dénoncé pendant un moment l'affaire de détournement de 15 millions. Aujourd'hui, vous n'en parlez plus, vous ne faites même plus les rapports à la population par rapport à votre action citoyenne que vous avez menée pour que finalement les peuples congolais puissent se faire une idée sur les résultats de ces enquêtes. Alors, et vous et nous, nous sommes tous dans un effet d'attentisme. On ne sait pas comment cette affaire va aboutir.
Oui, je suis d'accord.
Finalement, on prêche dans les déserts.
Oui, exact. Je suis d'accord d'entendre que la population se plaindrait, ne comprendrait plus comment est-ce que les choses avancent à partir du moment où nous qui en parlons publiquement. À un moment donné, nous cessons d'en parler, mais c'est tout à fait normal. Nous avons effectivement l'obligation de leur expliquer. Nous avons mis toutes les informations, tous les détails en notre possession, à la disposition du parquet général près de la Cour de cassation à son temps. Et nous avons des preuves des accusés de réception. Il faut quand même mentionner que l'ancien procureur général près de la Cour de cassation n'a pas aidé la République en ce qui concerne la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Parce que toutes ces informations, tous ces éléments lui ont été fournis, il n'a fait poser aucun acte sérieux alors d'enquête afin d'identifier les auteurs et leurs complices. Nous lui avons même fourni les informations fiables sur l'identité des personnes qui sont concernées par ces actes de détournement. Mmh. Il n'a pas diligenté une enquête sérieuse pouvant faire arrêter ces personnes pour qu'un jour elles soient mises à la disposition d'une juridiction compétente. Et donc, nous osons croire que les nouveaux que le président de la République a nommés ont conscience de leurs responsabilités au vu de l'hémorragie que leurs prédécesseurs ont créée et surtout les fossés qu'ils ont provoqués, entretenus entre la population et la justice, parce qu'aujourd'hui, nous devons les dire, il n'y a plus confiance entre la population envers la justice. Mais cette confiance doit se rétablir en fonction des garanties, des signaux forts, positifs que les nouveaux vont donner par les actes qu'ils vont immédiatement poser. Nous les félicitons déjà pour le travail qui est fait en rapport avec les actes de corruption et de détournement dans le cadre des 100 jours du président de la République. Il y a 3 personnes qui sont arrêtées. Les enquêtes poursuivre leur cours normal, nous espérons que
il y aura un aboutissement.
Tout ne pourra pas s'arrêter seulement à des faits d'annonce, c'est-à-dire on arrête des gens, on les envoie, détention préventive, et puis un jour, le lendemain, ils sont dehors. Il n'y a même pas un seul procès qui peut déboucher sur des condamnations avec récupération des biens qui ont été volés à l'État.
Donc, merci. Voilà ce que nous merci beaucoup, maître Georges.
Nous avons commencé déjà des discussions avec eux pour qu'ils changent la manière de travailler.
Merci beaucoup, maître Georges. On ne saura pas vous garder le plus longtemps. Il y a d'autres auditeurs également qui attendent. C'est Loulou Simon. Vous êtes à Matadi. Bonjour, Simon.
Oui, bonjour et bonjour à tout le monde. En fait, s'il faudrait réagir, en tout cas, ce qui est vrai que l'article 99, si jamais il est violé, il va falloir en train d'être revu au fur et à mesure, fasse bien son travail. Si la justice ne fait pas son travail par rapport à l'article 99 qui demande tout membre du gouvernement doit déclarer ses biens dès l'entrée, avant l'entrée à ses fonctions, c'est que même la justice, nous le soupçonnons déjà, parce que si la justice n'arrive pas à résoudre ces problèmes, c'est-à-dire ce que même la justice ou les gens, les commis de la justice qui doivent faire ce travail, nous les soupçonnons de...
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne des aides. C'est Loulou, on ne saura pas vous garder depuis longtemps parce qu'il y a des micro-coupures et ça ne permet pas, cela ne permet pas, pardon, à nos auditeurs de pouvoir vous écouter confortablement. Merci. Alors, on revient à vous, Monsieur Ekazembe, ancien gouverneur de Katanga et président de la CONACAT, membre du FCC. Vous avez suivi les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est la justice pour résoudre finalement cette gangrène des et la corruption qui persiste et finalement qui embrasse tout le monde. Alors, vous pensez que la justice, c'est le dernier rempart?
Effectivement, la justice, dans un état de droit, c'est la justice qui est le dernier rempart. Il y a eu effectivement étouffement de la justice, à tel point que tous les magistrats se sont pliés au pouvoir exécutif. Il y a beaucoup de jugements qui sont rendus et qui ne sont pas exécutés. Mais il faudrait peut-être trouver un autre. Et le chef de l'État doit s'appuyer sur la justice, qu'il veut vraiment être apprécié. Donc la justice, dans un état de droit, c'est le dernier rempart. C'est-à-dire, nul n'est au-dessus de la loi. C'est la loi qui est au-dessus de tout le monde et tout le monde se remet. Et c'est la justice qui est une barrière. C'est la justice qui est la véritable moralisation. Lorsque quelqu'un ne peut pas écouter les prêtres à l'église, lorsque quelqu'un n'a pas reçu une bonne éducation, je pense qu'il n'y a que la justice maintenant pour lui administrer la leçon. Comme on dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Parce qu'il n'a pas été bien éduqué, il n'a pas écouté les religieux à l'église, il ne comprend rien de la religion. Donc il n'y a que la loi pour le mettre dans le droit. Et d'ailleurs, ce que nous aurions souhaité, que la justice puisse revoir tous les jugements rendus. La justice, par exemple, dans le cas qui me concerne, elle a été humiliée par le pouvoir exécutif. Pas même pas par le pouvoir exécutif, mais par des politiciens, tout simplement. Comment la Cour constitutionnelle rend un arrêt et les gens refusent d'exécuter un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et il y a autant d'arrêts comme ça. Je devais rentrer à l'Assemblée nationale et j'arrive là-bas, un arrêt de la Cour constitutionnelle a déjà établi qu'un député, après avoir exercé des fonctions incompatibles, rentre à l'Assemblée. Mais j'arrive à l'Assemblée, on m'échange, on dit non, monsieur Kazel de sortir, nous ne voulons pas de vous dans l'Assemblée provinciale. Elle est élue du peuple. Vous voyez que tout ça, ça découle.
Oui, mais vous avez été reproché en son temps d'appliquer les devoirs de l'ingratitude. Et comme l'a dit maître Georges Kapiamba, nous sommes tenus au devoir d'ingratitude pour ne pas répondre, en tout cas, au bénéfice de ceux qui vous ont nommé. Et c'est ce qui a fait que vous n'êtes plus en odeur de sainteté, semble-t-il. Mais peut-être en ce moment que vous n'êtes plus aux affaires, vous pouvez dire la vérité.
Oui, effectivement. Bon, écoutez, la vérité, moi, je l'ai soutenue. Je suis allé à la Cour constitutionnelle parce que je sais que, écoutez, non, mais je suis congolais quand même. Je suis dans mon pays. Et si j'ai les qualités qu'il faut pour exercer n'importe quelle fonction, c'est un droit, ce n'est pas une faveur. Le pays n'appartient pas à un individu qui dit que moi je vous fais faveur parce que vous êtes Kazembe et vous allez être à mon service. Non. C'est comme on a dit, le devoir d'ingratitude. Vous êtes nommé magistrat et vous avez une mission de l'État. Ce n'est pas le président de la République qui vous confie la mission, mais c'est la Constitution, ce sont les lois de la République qui définissent la mission des magistrats. C'est la même chose, la loi, les lois de la République, la Constitution définit le rôle d'un gouverneur. Ce n'est pas être au service d'un individu, mais c'est être au service de la nation.
Donc si quelqu'un vous dit non, c'est moi qui vous ai nommé, vous devez être reconnaissant vis-à-vis de moi. Au lieu de servir la nation, vous devez me servir moi. Je pense que vous avez à ce moment-là l'obligation.
Alors comment réagissez-vous lorsque les gens disent que c'est un système aujourd'hui, la lutte contre la corruption, ce n'est pas une affaire qui pourrait trouver solution aujourd'hui, dès lors que le système s'est transmis des générations en générations, et surtout avec cette fameuse phrase, le partage équitable et équilibré du pouvoir, c'est comme si on partageait un gâteau, c'est comme si on allait toucher à la mangeoire, c'est comme si on allait tous à la banque recevoir la part qui nous est réservée.
Je crois que c'est là que le chef de l'État devait transcender. Effectivement, les fonctions dans les histoires politiques, on peut se partager comme il faut, mais comme on veut, mais en ce qui concerne la gestion de la République, la gestion de la chose publique, nous devons trouver des personnes compétentes. Nous devons trouver des choses capables si nous voulons que le pays se relève. Si nous le partageons comme en tant que partisans, à ce moment-là, les gens vont agir comme des partisans. C'est ainsi qu'on trouve, par exemple, dans le gouvernement, des ministres qui n'ont fait que l'école primaire, qui ne savent même pas parler français, qui font la honte lorsqu'ils vont s'exprimer à l'étranger. Tout simplement, on l'a nommé parce que c'était un bon militant, il a fait longtemps et il saura faire les opérations retour une fois nommé. Je crois que c'est une honte. Nous devons vraiment nous dépasser. Et c'est pour cela que j'ai dit que la coalition, FCK, c'est une bonne chose. Mais pourvu qu'elle puisse définir les objectifs dans l'intérêt de la République. Pas dans l'intérêt des familles politiques. Non, dans l'intérêt de la République. Et c'est une violation de la Constitution lorsqu'on doit nommer les mandataires sur base de familles politiques. Je pense que c'est une violation parce qu'on dit que pour ce qui est de l'emploi, c'est un emploi, pour ce qui est des missions, de la gestion, on ne doit pas tenir compte ni de la religion, ni du sexe, ni de l'appartenance politique. Mais nous devons choisir les meilleurs d'entre nos enfants, les meilleurs d'entre les Congolais qui ont l'expérience, qui ont l'expertise et qui peuvent apporter quelque chose afin que le pays aille de l'avant.
Voilà, alors on aurait bien voulu accorder la parole à Alain Bolodjoua qui nous a rejoint. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Est-ce qu'Alain, vous serez placé juste un mot en 30 secondes? Alain?
Oui, bonjour à tous, bonjour à tous.
Juste en 30 secondes.
Oui, je crois que le pays va très mal. Il y a l'inconscience, il y a l'immoralité, il y a toutes les anti-valeurs que nous devions combattre qui prennent de la place, mais fort malheureusement, ça devient institutionnalisé. Nous avons besoin du changement et le changement n'est pas que par le changement de mentalité. Fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous assistons à un enrichissement illicite des gens. Il y a des gens qui détournent l'argent de la République. Il y a des entreprises qui sont considérées comme des bras sécurisés des partis politiques. Il y a la gouvernance aujourd'hui qui patauge, qui ne permet pas à ce que le pays puisse avancer. Et bien, ce que je voudrais dire en conclusion, on a connu l'alternance sans alternative. Sans alternative, et je considère que cette alternance sans alternative n'est qu'une alternance avec qui ne sera pas avancée.
Merci
voilà
beaucoup.
Pourquoi nous devons repenser l'État, réorganiser les élections pour que nous ayons effectivement des gens consensueux.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Bolodjoua. Alors, Monsieur Kazembe, ancien gouverneur du Haut-Katanga, président de la COLACAT, juste en une phrase, c'est qu'on peut retenir en conclusion. En une phrase.
Oh, merci beaucoup. En une seule phrase, je dirais que nous devons aimer ce pays. Notre pays a toutes les possibilités, toutes les potentialités pour se développer. Chercher un enrichissement personnel, je pense que c'est chercher un appauvrissement collectif. Mais plutôt, si nous recherchons un enrichissement collectif, nous tous, nous allons nous retrouver dans un bon cadre, dans un Congo où il fait bon vivre.
C'était un réel plaisir de partager ces moments ensemble avec vous, chers auditeurs, partout où vous nous avez suivis. Merci de l'intérêt que vous avez accordé à cet échange citoyen. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Polydor Basunga à la mise en onde, Tati Mapoukou à la réalisation. Jir Lungembo Luabung Anji a eu le plaisir de coordonner et présenter ce magazine. On se retrouve demain dans un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Les débats se poursuivent sur nos différentes pages des réseaux sociaux.